RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour et merci d'être avec nous pour débuter la semaine en débat, en discussion avec les GG, avec les grandes gueules. Avec le 32-16 est disponible, ça y est, c'est parti. Vous êtes avec nous jusqu'à midi, on vous attend. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Dans les GG aujourd'hui, Joël Dagosséry, elle est coach de vie. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie venu de l'Est de la France.
Bonjour. Bonjour à tous.
Et puis nous sommes avec Maître Charles Consigny, avocat. Bonjour mon cher Charles.
Bonjour à tous. Attends Alain, avant de commencer, il faut que tu nous racontes ton incroyable week-end. Parce qu'on se demande, que fait Alain Marchal le week-end?
Il doit avoir une vie palpitante.
Eh bien justement, c'est un week-end catastrophe
qu'il
a vécu.
Ça a palpité, mais plat, si tu veux. Parce que comme des milliers de gens, on avait rendez-vous à Marseille pour voir le concert de Bruce Springsteen.
Ah oui.
En partant en avion, sauf qu'on a eu la grève des aiguilleurs du ciel, donc les vols annulés. Donc j'ai dû me rabattre au dernier moment sur le train. Je fonce à Marseille où je retrouve des copains. On se retrouve devant le stade Vélodrome le samedi. À 17h30, on apprend que le concert est annulé.
Ah là là.
Je dois, et mon vol du lendemain a annulé aussi. Donc, repars en train le lendemain matin à 5h du matin. Où là, j'apprends que, pour une raison technique, mon Ouigo, on a enlevé une rame. Et donc, je risque de voyager debout. Parce qu'on te dit, on n'est pas... T'as payé ta place. On te dit, voilà, on a changé les rames et on n'est pas sûr que vous puissiez avoir votre rame et votre place.
Et ton train n'arrive pas à Paris, il arrive à Marne-la-Vallée.
Et moi, je suis arrivé à Marne-la-Vallée. Donc après, tu prends le RER ou tu sors du train, tu vas aux machines pour acheter le ticket. Il n'y avait pas une queue. Tu avais l'impression d'assister à un autre concert.
Ouais,
encore.
C'est vrai.
Il y avait une foule devant la moitié des machines qui étaient en rade. Et donc, tu attends encore un quart d'heure pour pouvoir acheter un petit ticket. Et ensuite, tu te fais 50 minutes pour revenir dans le centre de Paris. Et je devais aller avec les copains à Milan aussi le voir, parce qu'on y va en convoi, en bon fan du boss. Et le concert à Milan est aussi annulé.
Bref,
si vous voulez reposer, je vous raconterai aussi comment on galère aussi pour rentrer son code et ensuite dormir dans un B&B qui était dans une zone commerciale à Marseille. Tu sais, tu rentres ton code,
pour la boîte à clé.
Ton code pour ouvrir ta chambre. Seulement, tu rentres ton nom, tu rentres ton code de réservation et rien ne fonctionne. Et donc, à minuit et demi, tu cherches le veilleur de nuit pour dire « Monsieur, il faut que je te dorme quelque part ». Enfin bon,
tu as envisagé le pire. Dans deux mois, c'est les JO.
Ouais.
Et on va rigoler aussi.
Je pense qu'on
n'est
pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt.
On n'y est pas encore. Tiens, pour les JO, j'ai vu qu'il reste...
Est-ce qu'une nouvelle date de Bruce Springsteen est prévue
à Marseille? Non, là, ça va être compliqué
mais en
de
France,
recaler ça.
Ou en Europe. En Europe.
Bah là, il a annulé Marseille, il a annulé Prague, il a annulé Milan,
mais
il reste l'Espagne. Extinction de voix. Mais il joue 3 heures, donc si tu veux, c'est pas Jenny Hermine et Carla Bruni, lui.
C'est le problème des vieilles vedettes.
Bah, c'est surtout le problème des chanteurs à voix, celui-ci. Si tu dis Carla Bruni, a une extinction de voix, tu diras, elle peut quand même chanter.
Elle a une extinction de voix, Carla Bruni.
Depuis toujours. Springsteen, c'est
pas de faire un ami, là.
C'est plus compliqué.
Là, je crois qu'un ancien président de la République va.
C'est viré ce soir.
Oui, là, je crois que. Il va y avoir des pressions, là.
Un petit salut aux milliers de fans du boss qui, comme moi, regrettent de ne pas l'avoir vu. Et un grand coucou à Manu, aussi à la Maison Juste à Marseille, qui a accueilli une petite soirée improvisée. On l'embrasse. Qu'est-ce que je voulais dire? Tiens, tu parlais des Jeux Olympiques, on ne sera pas prêt. J'ai vu qu'il restait. Il y avait seulement un tiers des places pour les Jeux Paralympiques qui avaient été vendues. Donc allez-y, allez supporter aussi les athlètes paralympiques. C'est le moment de témoigner de votre soutien et les places sont pas chères. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? De l'audiovisuel public est à gauche. On va parler d'un éventuel débat Macron-Le Pen. Est-ce que le chef de l'État doit débattre avec Marine Le Pen? Mais commençons d'abord par l'attaque au couteau à Lyon.
RMC, les grandes gueules.
Ça s'est passé à 14h30, cette attaque au couteau dans une rame du métro de la station Jean Jaurès à Lyon. Plusieurs personnes qui ont été frappées, certains sont partis en urgence à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que l'agresseur était sous, vous connaissez l'acronyme maintenant, OQTF, obligation de quitter le territoire français.
Oui, bah c'est un scénario malheureusement banal. On a l'impression qu'il se reproduit chaque semaine. On a un homme de 27 ans,
au parcours psychiatrique, nous dit-on, assez chargé, qui va semer la terreur un dimanche après-midi dans le métro lyonnais. Il a blessé 4 personnes avec un couteau à cran d'arrêt qu'il avait sur lui. Il aurait pu avoir des morts. Le drame a été évité, mais enfin, il y a quand même 4 blessés. Il a été interpellé immédiatement, placé en garde à vue. On apprend donc qu'il se trouvait sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfecture de la Vienne en 2022, il y a 2 ans. Il est originaire d'ailleurs de la Vienne. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Visiblement, il fait des allers-retours entre la Nouvelle-Aquitaine et aussi Lyon. Et à chaque fois, il fait des établissements psychiatriques, mais après, il ressort. Il est de nouveau hospitalisé. Un profil psychiatrique assez lourd, nous a dit la préfète du Rhône. Rappelons que le nombre d'étrangers en attente d'expulsion augmente chaque année. Entre 2019 et 2022, les préfets ont prononcé 447 000 obligations de quitter le territoire, y compris Outre-mer. En 2019, Emmanuel Macron avait dit « ça sera 100% de QTF exécuté, le taux d'exécution est d'environ combien ?»
5%?
7%.
7%.
Et non 15, comme l'a dit le jeune Attal lors du débat avec le jeune Bardella.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire,
Il a menti sur le chiffre, quand même. Moi, je pense que, malheureusement, si vous voulez, les OQTF, ça fait pas plaisir. Il y a 2 phénomènes qui se conjuguent. Il y a d'une part le fait que nous accueillons trop d'immigration en France et que nous avons perdu le contrôle de ce phénomène. Et il y a d'autre part le fait qu'en France, comme on a un bon cœur, on délivre volontiers les OQTF, mais on répugne à les exécuter parce qu'évidemment, en pratique, c'est très violent, une obligation de quitter le territoire français. Ça veut dire que, à la fin, quand on l'exécute par la force, on vous met dans un avion et on vous renvoie dans votre pays. Ça veut dire aussi qu'il faut obtenir les fameux laissez-passer consulaires. Ça c'est une bonne manière de botter en touche pour les politiques qui ne voudraient pas agir vraiment, c'est-à-dire qu'on nous explique que le Maroc, l'Algérie ne voudraient pas reprendre leurs ressortissants et que donc on ne pourrait pas les renvoyer, notamment vers ces pays-là. Moi, je pense que c'est assez hypocrite d'aborder les choses de cette façon-là, parce que la France a malgré tout des moyens de pression énormes, notamment l'Algérie, c'est quand même un pays avec lequel on est en lien.
On délivre beaucoup de visas.
Je crois qu'on délivre déjà beaucoup de visas. Il faut voir les montants exacts, mais je pense qu'on donne quand même un peu d'argent
au titre du gaz
de l'aide au développement. Bon, oui, alors c'est interdépendant.
Oui, mais je pense, en notre faveur.
Oui, mais je pense pas qu'on soit en situation de faiblesse par rapport à ces pays-là. Donc, ce que je crois, c'est que peut-être qu'il faut délivrer moins d'OQTF, mais exécuter les OQTF, c'est-à-dire les délivrer quand vraiment on veut que quelqu'un soit expulsé du territoire et prendre les mesures nécessaires à obtenir l'expulsion du territoire. Moi, je suis désolé, mais je vois il y a plein d'autres pays qui sont beaucoup plus durs que nous et je vois pas pourquoi on garderait sur notre sol tous les malades psychiatriques des pays desquels on accueille des immigrés. Je suis désolé, on n'est pas un asile à ciel ouvert. Donc, il y a un moment, les Français n'ont pas à subir des psychopathes en liberté dans les rues parce que la Ligue des droits de l'homme et quelques associations ont décidé qu'on devait subir ça. Je pense qu'il faut assumer une certaine fermeté dans ce domaine. Et là, par exemple, ce jeune homme, je pense qu'il sera très opportun de l'expulser dès que possible.
D'autant que dans le projet de loi immigration, Gérald Darmanin a promis une rapidité d'exécution des OQTF, une montée en puissance des obligations de quitter le territoire français. Joël.
Non, je partage complètement ce que vient de dire Charles. Il en va de notre sécurité. Enfin, moi, alors peut-être parce que je suis une femme et que j'ai un peu les radars un peu aiguisés, mais j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus Walking Dead. Enfin, tu t'arrêtes à un feu rouge, t'as quelqu'un comme qui erre. Vraiment, il y a des gens qui errent dans les rues. Enfin, c'est des choses que je voyais pas. On a toujours vu des SDF ou des choses comme ça, mais des gens qui errent dans un état second dans les rues, il y en a de plus en plus.
Dans le métro,
tu t'arrêtes au feu rouge. Enfin, souvent quand je prends un Uber ou il s'arrête au feu rouge, t'as toujours une personne, mais c'est pas seulement qui fait la manche. C'est vraiment qui est dans un état, tu le sens, d'errance. Et ça, c'est inquiétant. Enfin, moi, je trouve le phénomène assez inquiétant. Et quand on parle d'OQTF, c'est vrai que souvent on dit, une OQTF, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin, non, c'est un papier qu'on remet à quelqu'un et on lui dit, si tu le veux bien, monsieur, si t'es sympa, merci de sortir du territoire. Et pour avoir connu des expulsions de territoire, j'en ai eu dans ma famille, vraiment, alors dans les années 90, etc. j'ai l'impression que ça se faisait assez fréquemment et assez durement. Et j'ai l'impression que cette dureté n'existe plus aujourd'hui. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui sont expulsés, mais c'est quelque chose dont on avait très peur. Je sais que dans ma famille, il y a plein de gens qui sont venus justement sans papier. Et c'est des choses dont, enfin, il y avait vraiment une crainte, en fait, d'être attrapé, parce que tu savais que si t'étais attrapé, notamment, je sais que j'ai un cousin dans ma famille qui a été expulsé comme ça, si tu te faisais attraper, tu repartais directement. Il n'y avait pas ce type de, tu es attrapé, t'as un papier, tu continues à te balader, et puis si on te rattrape, et puis si on te rattrape deux fois, trois fois, quatre fois.
Bah, oui, centre de rétention là, complet, c'était, ça explique non. également pourquoi, à un moment donné, ils sont remis en liberté.
Bah oui, mais là, c'était direct. Il a été attrapé. On a passé un coup de fil à mon père pour dire, vous connaissez cette personne? Mon père a dit oui, je le connais. Bah écoutez, il prend l'avion ce soir. Il est reparti.
Ah oui.
J'en ai 3-4 comme ça. Donc je ne sais pas ce qui se passe maintenant.
Jean-Loup?
Oui, bah non, mais je pense que tout a été dit, d'autant plus que ce qui me frappe, c'est que, je crois que tu l'as dit d'ailleurs, le scénario est extrêmement banal. C'est-à-dire, c'est un scénario, je veux dire, là, dans cette émission, je veux dire que au moins une fois par mois, tu as un crime grave commis par une personne sous OQTF qui ne devrait pas être sur le territoire français. Sans compter tous ceux dont on ne parle pas. Là, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire le cas le plus spectaculaire et le plus médiatisé, c'était l'affaire de la jeune Lola. Mm-hmm. C'est quand même une jeune fille de 13 ans qui avait été découpée en morceaux par une migrante sous OQTF. C'est d'ailleurs là, c'est ce qui avait fait voir le scandale en fait des OQTF non exécutés. Et en effet, comme le disait Joël, moi j'ai souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, fin des années 90, début des années 2000, bah par exemple quand Jacques Chirac était président de la République, tu avais des taux d'exécution beaucoup plus élevés. Et à mon avis, le fait que les OQTF ne soient plus exécutés, c'est-à-dire que là, d'une certaine façon, en effet, c'était normal statistiquement qu'ils soient sur le territoire français, puisque 93% des gens qui sont sous son cas restent sur le territoire français. À mon avis, c'est l'un des aspects je fais le lien avec ce que nous a dit Alain sur son week-end. Tu vois bien, non, c'est pas une plaisanterie. Tu vois bien qu'en France tout dysfonctionne. Mmh. Tu vois bien que les services de l'État ne marchent plus.
Tu vois Bruce bien Springsteen, que ça parle pas à l'État.
Ça ne parle pas de Bruce Springsteen. Mais
quand t'es nationalisé,
je te parle des avions et des trains.
Oui, bien sûr.
La rame du Ouigo.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
C'est-à-dire que
les guichets RATP qui sont cassés.
Voilà. La RATP, tu vois bien que ça dysfonctionne.
Les aiguilleurs du ciel qui font grève.
Les aiguilleurs du ciel qui font grève. Le niveau scolaire qui s'effondre. Tu vois que l'école, ça ne marche plus. L'hôpital avec le Covid, on en a beaucoup parlé. Tu vois que ça ne marche plus. Tu vois l'état des routes et des ponts en France. Et ben, tu vois les OQTF, c'est pareil. Il y a l'État. C'est comme s'il appuyait sur une pédale et qu'il ne se passait rien.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois problèmes soulevés par cette histoire. Oui. Il y a effectivement les OQTF qui ne sont pas exécutés. Celle-là, en plus, elle était assez ancienne, hein, 2022.
Oui.
Il y a aussi la prolifération des couteaux, de ces types qui se baladent avec des couteaux en ville, dans la rue, dehors. Et puis la troisième chose, la psychiatrie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui est pris en charge, donc on sait qu'il est potentiellement dangereux et donc il est soigné dans plusieurs établissements et pourtant à un moment donné on le remet dehors parce qu'on peut pas les garder non plus à vie. Donc il y a la psychiatrie qui est un peu le parent pauvre et on sait qu'il y a quand même pas mal de dingos qui se baladent, qui sont pas forcément bien soignés. Les couteaux,
oui,
la prolifération des couteaux
et ensuite
un homme
je
qui n'est pas français,
on est d'accord que pourquoi on lui paierait des soins psychiatriques. Je suis désolé, mais demain, moi, si j'ai une bouffée délirante aux États-Unis, je suis pas sûr que, aux frais des Américains, je sois traité dans une clinique pendant plusieurs semaines.
Et encore moins aux frais des Marocains.
Je pense que je suis raccompagné à l'aéroport et qu'on me demande gentiment de rentrer dans le pays d'où je viens. Donc, je vois pas pourquoi on serait cette espèce de sécurité sociale mondiale. Vous avez un problème, bien venez, nous vous prendrons en charge. Vous comprenez, nous avons une déclaration des droits de l'homme. Donc
je comprends bien, mais tant qu'il est là, quand même, c'est notre sécurité qui soit soignée.
Mais
tu laisses des malades pareils. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais soit on le raccompagne, mais si on ne l'a pas raccompagné, excuse-moi, tu ne vas pas laisser un mec complètement dérangé. Oui, on l'a quand même laissé, mais ça, c'est aussi un problème.
Dans cette histoire, ce qu'il faudrait quand même, c'est qu'on ait des explications. C'est-à-dire comprendre pourquoi depuis 2022 on n'a pas mis ça à exécution, comme tu le disais toi-même, pour l'avoir vécu de manière familiale et personnelle.
La préfecture s'explique. C'est la préfecture de la Vienne qui avait délivré cette OQTF.
Elles ont eu lieu. Donc là, tu te dis, mais pourquoi depuis deux ans ça, pourquoi est-ce qu'on s'en est pas occupé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été expulsé? Alors, faut rappeler, tu disais les lettres consulaires. Lettres consulaires, c'est-à-dire, tu demandes, c'est les préfets qui devaient s'en charger, hein. C'est-à-dire, tu demandes au consulat, à l'ambassade, donc, du Maroc, puisqu'il est marocain, de te donner l'autorisation de le renvoyer.
Il ne vient pas, en plus, il ne vient pas d'un pays, qui est en guerre, il ne vient pas d'un pays sous-développé, il vient du Maroc, ce qui est un pays avec qui on a des relations tout à fait normales.
Amical, ouais.
Donc, à un moment donné...
C'était plus si bonne ces derniers temps.
Non, mais, oui, enfin, on nous explique que quand c'est un Afghan, on peut comprendre effectivement, il faut voir de près quand il vient d'Érythrée, quand il vient de ces pays difficiles, mais là, c'est pas le cas. Je rappelle que majoritairement, nos immigrés viennent du Maghreb.
Écoutez, la discussion est lancée, elle va continuer dans un instant avec, je regarde Olivier qui vient d'arriver, il est technicien, il est du côté de l'Hérault. Et alors, lui, là aussi, où il est abasourdi, c'est qu'il dit, mais pourquoi ce n'est pas réglé, cette histoire? Voilà, citoyen français, l'ami Olivier, OQTF non exécuté. Malheureusement, ça se termine par des coups de couteau dans le métro à Lyon, avec des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital, des blessés en urgence absolue, 17 ans, 29 ans. Celui de 29 ans blessé au thorax et au ventre, et celui de 17 ans au thorax et au ventre, à l'abdomen.
Ça va pas faire monter Valérie Ayé et tout ça.
Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Débat et discussion avec les GG, avec vous bien sûr au 32-16. Rejoignez-nous avec Charles Consigny, l'avocat, avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, Joël Dagosséry, la coach de vie, pour parler de ce qui s'est passé à Lyon, comme Olivier, donc il nous appelle de l'Hérault. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Bienvenue mon cher Olivier, et bonjour, bon Olivier. Début de semaine avec le retour des OQTF. Qu'est-ce que vous en dites? Comment avez-vous réagi Olivier à cette histoire alors?
Bah, écoutez, je rebondis sur les termes d'Olivier tout à l'heure, sur la banalisation de ces actes en fait, parce que ça devient tellement courant et tellement triste en fait que ça devient banal, et ça me choque en fait de dire que ça devient banal. En fait, et ce qui se passe, c'est que la politique de notre pays d'un point de vue migratoire, hein, tout comme ça a été dit par Charles tout à l'heure, part à volo totalement, et bon, je pense que c'est une volonté vraiment de Monsieur Macron, de toute façon avec le pacte notamment migratoire, le pacte européen, de ne pas travailler sur ce sujet. Vous savez, de laisser faire et de laisser les OQTF, en fait, ça ne les dérange pas. Donc c'est pour ça que toutes leurs promesses, notamment celle du ministre de l'Intérieur sur comment dire, un durcissement d'exercice des OQTF, sincèrement, j'y crois pas, et pour deux raisons. J'y crois pas parce que j'ai un ami en fait qui travaille dans les CRA, et il m'explique en fait que pour arriver dans un CRA, maintenant, déjà, ils sont pleins, et en plus, ils vont mettre
des centre de rétention administrative, c'est ça?
Tout ouais. À fait. Excusez-moi, j'ai pas développé. Et en fait, pour arriver dans un de ces centres, vu qu'il y a déjà plus de place, ils vont que les cas les plus graves, c'est-à-dire déjà justement les délinquants, les criminels qui doivent repartir, et les centres sont pleins le temps que ça soit mis en exécution, ce qui fait que n'importe quel étranger en situation régulière sur notre pays, en fait, va pas repartir parce qu'on peut pas le mettre dans un de ces centres. Donc en fait, il reste sur place. Donc déjà,
on priorise. Par exemple, Olivier, pardon, vous interromps, mais ouais. pour que il avait une OQTF assez ancienne, 2022. On est en 2024. Ouais. Moi, je pense qu'il était pas prioritaire pour la préfecture puisqu'il n'avait pas d'ailleurs de casier judiciaire. Il faut reconnaître, ouais. il n'était pas connu pour les faits de délinquance. Donc je pense que la préfecture se dit bon, c'est là en plus qu'il fait les séjours psychiatriques. Donc en gros, il est pris en charge. Ouais. C'est pas la priorité. Voilà.
Vous savez, Olivier, je vais vous dire quelque chose. Des cas psychiatriques, j'en ai vu beaucoup. J'ai fait à l'époque des hospitalisations à la demande des tiers et même des hospitalisations d'office. Et on se rend compte qu'en fait, une fois que la personne est au centre de soins, elle prend ses médicaments pendant une semaine. Oui. Au bout d'une semaine, il va mieux. Mais écoutez, le médecin, il est ressorti. Une fois qu'il est dehors, il prend plus ses médicaments et oui. Recommence. Donc ça, j'y crois
c'est
absolument pas.
C'est ce qui s'est passé, ouais.
Voilà. Et le deuxième chiffre qui est très important à prendre en compte, c'est le Point qui avait publié ça. C'est que 36% des personnes en situation irrégulière qui arrivent sur notre pays ont des problèmes de type psychiatrique. C'est le Point qui l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai chiffré. Donc au bout d'un moment, on a une immigration de masse, hein, on
c'est
a le pacte européen
société, hein,
que... qui vient oui. de nous mettre gentiment, quand tous les étrangers vont arriver en Italie, on va nous les ramener en France dans les campagnes, sinon on va prendre une amende de 20 000 euros par migrant, faut quand même le rappeler, c'est pas rien. Et à côté de ça, on sait qu'il y a une population qui est sujette, je dis pas que c'est de leur faute, hein, attention, hein, à des troubles qui vont aggraver tout ce qui se passe dans notre pays. Enfin, au bout d'un moment, je pense
on
qu'il
n'est pas dans l'immigration choisie.
Tout à fait. Bien sûr.
Défendait Nicolas Sarkozy. Non, mais l'idée de.
Est-ce ah, on les choisit, ils le sont tout particulièrement choisis.
Voilà, où on va prendre des personnes dont on a besoin ici, notamment dans les secteurs d'activité. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Ouais.
Mais non, pas du tout. Je pense qu'il est important que l'immigration, effectivement, ça choisit. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Qu'une personne vienne en France avec la volonté de s'intégrer, de travailler, elle sera toujours plus que la bienvenue. Bien au contraire, une personne qui a une demande d'asile, qui est justifiée parce que son pays est en état de guerre, à la dépression politique, avec grand plaisir. Mais après, je pense que le reste, effectivement, on peut s'en passer quand on voit le niveau du pays actuellement. Hein, je suis désolé. D'un point de vue économique, il y a l'Europe qui est en train de nous taper sur les doigts. On est comparé à la Roumanie et à la Slovaquie, s'il vous plaît, d'un point de vue économique. Alors, monsieur Le Maire, qui, avec son Mozart de la finance, est plus le Beethoven de la dette, hein, monsieur Macron, bon, d'un moment, il faut qu'il se calme tous et qu'il s'occupe vraiment du pays. Je pense que l'immigration est un sujet des plus importants, quoi.
C'était l'éditorialiste Olivier.
Merci Olivier.
Pardon, c'est désolé, je me suis
en même temps, c'est l'antinomane. En même temps, vous avez fait ce qu'il fallait, mon cher Olivier. Je pense que ce que vous venez de dire est partagé par beaucoup de monde qui écoute les grandes gueules.
Ah, moi, j'ai un bémol quand même.
Ah, vas-y Joël.
Non, j'ai un bémol sur le fait qu'on veuille des personnes qui veulent s'intégrer et travailler. Quand je vois que quand même, dans l'immigration, il y a des personnes qui veulent s'intégrer et travailler et qu'on leur met des bâtons dans les roues, incroyable, pendant que d'autres se baladent tranquillement, apparemment sous OQTF. Donc, faut aussi savoir ce qu'on veut. C'est pas si facile. Enfin, en tout cas, on ne facilite pas autant cette volonté d'intégration et de travail.
Jean-Loup Bonamy.
Non mais peut-être que le gouvernement a estimé que fou était un métier sous tension et qu'il fallait en faire venir davantage pour faire le travail de psychotique que les Français ne veulent pas faire. Voilà, c'est ça.
Olivier,
nous avons besoin de schizophrènes.
Je vous remercie d'avoir été avec nous, Olivier.
Un grand merci à vous tous.
Je vous souhaite une bonne journée du côté de Béziers. Quel temps vers chez vous, dans la cité bitéroise, là, ce matin ?
Il fait gris.
Gris.
Comme partout. Ici.
Hein, voilà.
Comme partout.
Mais c'est bon.
Salut Olivier, à bientôt.
Merci dans beaucoup.
Les GG. Au revoir. Le soleil.
On va aller à Lyon, justement, avec une policière municipale. C'est Swad qui nous appelle. Bonjour Swad.
Oui, bonjour les GG. Bonjour
Swad. Bienvenue Swad. Alors, j'imagine que ce qui s'est passé à Lyon doit particulièrement vous faire réagir et vous toucher. Pourquoi Swad alors ?
Oui, complètement, parce que. Il y a pratiquement un an, il est arrivé un peu la même chose, mais Dieu merci, l'individu n'a pas été jusqu'au bout. Car dans le tramway, un individu, pareil, d'origine marocain, avait tenu des propos un peu véhéments, il avait été un peu violent et avait à la fin aiguisé un couteau dont il voulait se servir. Ça a été compliqué dans la rame de tram. Les gens ont paniqué, se sont sauvés, enfin essayé de se sauver puisque le tram était en route.
Ouais.
Et du coup, à un moment, je me suis dit bon, enfin, il y avait Annecy 15 jours avant, et je revoyais les images, et je me disais mais non, mais c'est pas possible, en fait, on peut pas relier ça, surtout qu'on était vraiment dans un milieu clos. Et du coup, j'ai hurlé un peu dans le tram en disant mais.
Vous n'étiez pas en service à ce moment-là. Vous n'étiez pas en tenue ni équipé, voilà, d'accord.
Non, ça aurait un petit peu aidé, je pense.
Bien sûr. Bien sûr.
Mais là, non, j'étais en robe et talons, donc c'était vraiment pas le jour. Et du coup, j'ai hurlé. Et là, il y a deux personnes qui ont tiqué en disant oui, elle a pas tort en fait. Ils sont sortis un peu de leur état de. Enfin, c'était vraiment un état où on se dit mon Dieu, mais est-ce que ce qu'on voit est vrai ? Ça dure une seconde, il faut vite.
Et
ensuite réagir et du coup on a pu le désarmer. Ensuite ils l'ont fait asseoir, ils voulaient laisser partir et je leur ai dit non, il est hors de question. En parallèle, donc j'ai appelé les collègues de la police nationale et à un moment le tram s'est arrêté, il a pris la fuite et je lui ai couru derrière et on a réussi à l'interpeller. Et du coup effectivement ce qui s'est passé hier à Lyon, oui, ça ramène
mais
beaucoup de choses.
Soit justement puisque vous l'avez vécu vous il y a un an dans le métro.
Là, quand on parle de banalisation,
ça vient encore de se produire. Est-ce que ce genre, comme le disait Joël, d'individus, malheureusement, vous en voyez de plus en plus alors, Swad ?
Des gens munis de couteaux, oui. On a cette impression que tout le monde a un couteau maintenant, ouais. Que c'est ce qu'on cache le plus facilement, ce qu'on exhibe le plus facilement. Donc
en fait, on a une France de plus en plus armée. Alors comme les armes létales sont interdites, on a des couteaux.
C'est pas fait pour nous rassurer ce que vous dites, Swad. Hein. On le voit, on le constate, mais.
Tout le monde le constate.
Ce qui s'est passé à Crépin,
oui, voilà. C'est Annecy, il y a plusieurs villes où ça se passe, malheureusement. Et voilà.
Les gens se baladent avec des couteaux.
Après, le côté psychologique, bah, je pense que tout ce qui est stup, tous les cachets qui sont pris par ces gens-là et tout ça, ne sont pas anodins.
Ou pas pris, parce que peut-être que c'est un homme qui n'a pas pris son traitement et qui, à un moment donné...
Non, là, je ne parle pas de traitement, je parle de stup, ouais. Hein, je parle de tout
mais
ce qui est
anodin
par ces gens-là.
Ce qui veut dire, soit vous, en tant que policière municipale, ça veut dire que tous les jours, vous vous dites, au moment où vous prenez votre service, enfin, quand vous êtes en service, vous vous dites, je peux être confronté ça, quoi, à une attaque au couteau, quoi, en fait, aujourd'hui. Vous l'avez en tête.
Oui, en tant que policier, de toute façon, on s'attend à tout chaque jour. Nous, la police municipale, on est très souvent primo-intervenants. Donc, encore plus que... Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a... Disons qu'on est plus méfiant qu'il y a quelques années, effectivement. Sur des interventions, on est beaucoup plus méfiant sur tout ce qui est couteau, etc.
Merci.
Vous êtes armé, soit
Vas-y, Joël.
En tant que police municipale, vous êtes armé?
Bonne question.
Oui, à Lyon, nous sommes armés depuis un certain temps, oui, tout à fait.
Contrairement à Paris.
Oui, parce qu'il y a encore des villes qui refusent...
À Paris, c'est un petit peu compliqué.
Que la police municipale soit armée.
Effectivement, il est compliqué, il est inadmissible qu'une ville comme Paris...
Justement, est-ce que vous êtes mis en tête de devoir un jour sortir votre arme et tirer?
Alors moi, ce n'est pas mon cas parce que je suis opératrice au poste de commandement et de coordination. Je pense que mes collègues, oui, je pense que on est très bien formés à ça. Et je pense que lors d'une intervention, effectivement, les collègues, des faits qui sont qu'on entend chaque jour, oui, sont prêts effectivement à pouvoir riposter en cas d'attaque par arme blanche. Oui.
Merci soit de votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous.
Un petit bonjour au collègue qui a été blessé avant-hier, 45 jours du TP, et un petit message pour toutes les polices municipales pour qu'on soit reconnus en tant que véritable force de sécurité en France. Nous sommes très souvent primo intervenants et c'est vrai qu'on mérite une retraite digne.
Merci Swad, et puisque vous parlez de primo-intervenant, il faut se souvenir qu'effectivement à l'attentat à la Basilique de Nice, c'est la police municipale qui la première est intervenue et qui avait tué le terroriste, ou neutralisé comme on dit aujourd'hui. Maximilien de l'Essonne, bonjour Maximilien.
Oui, bonjour tout le monde.
Et vous alors, quelle est votre réaction dans cette nouvelle affaire d'OQTF et d'agression au couteau alors, Maximilien?
Eh ben, ma réaction, c'est que je pense à la petite qui avait été retrouvée morte, qui avait été tuée par une OQTF dans Paris, je ne sais plus où exactement. Ouais, exactement. Et je me dis, en fait, mais qu'est-ce que je vais dire, moi, à mes enfants, en fait? Il y en a un de 4 ans et une de petite qui a 3 mois, qui va grandir. Et que c'est de plus en plus, c'est la guerre, l'anarchie dehors. D'accord? On a beau dire, non, il ne faut pas exagérer, tout la gauche pensante. C'est ce qu'ils adorent dire. Mais tant que ces gens-là, ils n'ont pas été touchés par ça, ils pensent vivre dans un monde de bisounours. Pourquoi on a quelqu'un qui a une OQTF, on ne lui met pas, nous, directement dans l'avion? Pourquoi on lui donne un papier? Et on lui dit, si vous êtes bien gentil, vous allez
pouvoir... Parce qu'il y a des recours.
Mais les recours, il y en a marre en France, monsieur.
Oui, mais dans un état de droit, il y a des recours juridiques.
Non, mais, et ces gens-là, vous croyez qu'ils en ont quelque chose à faire du droit? Ils n'en ont rien à faire de ce que vous pensez, comme vous, comme moi. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est faire un carnage, d'accord? Et nous, on subit. Donc Darmanin, Macron, Dupond-Moretti, ils sont tous omnibulés par faire des débats télé, mais ils ne s'occupent pas réellement des problèmes. Non, mais c'est une vérité.
Non, ça, moi, ce qui me surprend, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement banal que finalement, il n'y a même pas de réaction gouvernementale. Par exemple, sur ce qui s'est passé à Lyon, Gérald Darmanin n'est pas monté au créneau. Il y a quelques temps, ce type d'événement, quand même, assez traumatisant dans le métro lyonnais un dimanche après-midi, il y aurait eu des réactions politiques. Ouais. Et en fait, maintenant, on a intégré cela, ça peut arriver. Non, voilà.
Exactement. Mais parce que ces gens-là se foutent de vous et moi.
Une banalisation.
Ils se foutent complètement.
Je crois que surtout, ils sont un peu dans la...
Ça fait quoi faire? Comme il a dit Charles Poussine, le jeune Attal. Mais ce mec-là, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée, à part cracher sur le RN?
Il prépare son débat avec Bardella. Oui, ça, il est passé. Hein.
Oui, mais,
passé
son débat.
Oui, mais ça lui a pris trois semaines de préparation.
Il prépare ses européennes. En fait, ils sont en train de préparer leurs européennes.
Ah, ben ça, c'est pas bon pour eux, les européennes.
Pourquoi vous croyez que Macron, il monte au créneau? Parce qu'il sent que ses petits soldats, ils sont un peu faibles et un peu nuls.
On va en parler tout à l'heure du débat.
Mais donc, au final. On règle pas le problème.
Et est-ce que vous croyez pas qu'il y a plutôt une impuissance à trouver des solutions? Mais je pense qu'il n'y a pas une volonté de pas régler le problème. Il y a peut-être simplement une impuissance à le régler le problème.
Allez-y, finissez votre phrase, Maximilien.
On a été capable de balancer du 49-3 dans tous les sens. Pourquoi là, on se démerde pas pour faire quelque chose?
49-3, le QTF,
oui. Mais oui, pourquoi on se démerde pas?
Oui, il n'y a pas fonction, c'est vrai.
Oui, on peut être autoritaire par certains endroits et puis on est peut-être au laxisme.
Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est très, très mou sur la question. Je veux dire, on a tous vécu. Alors c'est pas 100% lié à l'immigration, mais ça l'est quand même souvent.
C'est vrai que les QR codes, par exemple, de Jeux Olympiques seront faciles à appliquer.
On a tous vécu les dingos agressif, hein, violent, dans les transports en commun, dans la rue, et dans ces cas-là, tout le monde est très gêné, et tout le monde est surtout très saoulé que, bien que nous soyons le pays le plus taxé du monde, il n'y ait pas déjà un flic sur place pour canaliser le gars qui est en train d'emmerder tout le wagon ou tout le quai de la gare ou toute la rue, et surtout que le gars soit là si il n'a pas à y être sur le plan administratif. C'est sûr qu'on est tous fatigués. Moi, je pense qu'il y a une espèce de démotivation de nos pouvoirs publics, notamment sur cette histoire de laissez-passer consulaire. Moi, je ne peux pas croire que la France, un grand pays comme la France, n'ait pas les moyens d'imposer aux pays d'émigration qu'ils reprennent leurs ressortissants qui posent des problèmes sur notre territoire. Je pense que là-dessus, il y a franchement une faiblesse diplomatique coupable, et qu'il faut arrêter d'être là les bras ballants dans son petit bureau bien payé, et qu'il faut à un moment donné mériter son poste.
Maximilien, merci d'avoir conclu notre discussion. Bonne journée du côté de l'Essonne, monsieur le responsable de magasin. On va regarder justement ce que vous en pensez, comment vous avez réagi. On vous a posé la question à propos de cette OQTF. Oui. Attaque au couteau, sous QTF, est-ce que c'est un nouvel échec? Bah oui, qu'est-ce que vous voulez là? C'est implacable, hein, c'est oui, 96,1%. Dans un instant, on s'en fout pas, un collectif qui s'oppose au projet de maison Jules Verne à Nantes, parce que Jules Verne est un écrivain raciste, antisémite, sexiste. Carla Sofia Gascogne, première actrice trans récompensée au Festival de Cannes.
Première acteur, du coup.
Actrice.
Non, mais attends. Acteur. Elle dit qu'elle est femme.
Oui,
maintenant.
D'accord, mais.
Mais elle est femme maintenant.
Ah bon,
peut-être. Elle peut avoir des enfants.
Elle a eu un enfant.
En tant qu'homme. Allez, à tout de suite avec les GG pour voir ce qu'ils en pensent.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
32-16 pour réagir, les amis. Mais avant d'aller sur le on s'en fout pas avec notre productrice Anaïs Sens, que l'on surnomme Stabilo Girl. Vous verrez pourquoi. Ah ben ça, vous avez vu la couleur de son sweatshirt.
C'est panthère rose.
J'ai des vacances à vous faire gagner. C'est le retour des vacances Bellambra, les copains. Cette semaine, vous allez pouvoir partir à la mer, à la montagne ou à la campagne. Un séjour en famille ou entre amis. 45 clubs. Vous choisissez celui où vous voulez partir. C'est un séjour d'une valeur de 2000 euros. Donc, à vous de faire. Alors, pour gagner, vous envoyez séjour par SMS au 732-16. Séjour par SMS au 732-16. Et vous pourrez ainsi partir du côté des Menuires, partir du côté de Propriano, en Corse. Allez, pourquoi pas, si vous aimez la campagne, pour aller à Rocamadour.
Charles, tirez où ?
Propriano, sans doute. Moi, j'adore la Corse. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau.
Tu ferais mer, montagne ou campagne, Joël, toi ?
Mer.
Du côté Atlantique, côté Méditerranée ?
Méditerranée.
Mais bien sûr, c'est tellement normal. Et toi, Jean ?
Rocamadour,
ça te plairait bien. Les
grottes ?
Ouais.
On voit bien Jean-Loup dans la grotte.
Et vous pourrez nous sortir Gérard Blanchard,
dans les grottes de Rocamadour.
Vous pourrez nous sortir ça tout seul.
Oui, mais non.
Mais si, bien sûr.
Bon, voyez. On va remettre ça au goût du jour. On va relancer une tendance.
C'est pas sur Spotify.
Allez, hop, c'est parti. Donc vous envoyez séjour par SMS au 732-16. On prendra le gagnant tout à l'heure à 11h20 dans les grandes gueules. Bien joué, Antoine.
Mais c'est quoi ça ? Vas-y.
Je sais pas ton époque, années 80.
C'est Rato Monte Carlo là.
Bon. Rocamadour sur le programme des séjours Bellambra, à vous de faire. Vous envoyez séjour par SMS au 732-16. Allez go, on s'en fout pas.
RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Un référendum national pour un sujet local, c'est ce qu'a suggéré Emmanuel Macron dans Le Parisien hier pour sortir de la crise en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On ne s'en fout pas.
Joël ?
On ne s'en fout pas.
Jean-Loup ?
Je crois qu'on ne s'en fout pas.
Un référendum sur la réforme incontestée du corps électoral dans le cas où les élus locaux échouaient à s'accorder sur le sujet, donc en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi on ne s'en fout pas, Charles ?
Bah, je ne suis vraiment pas spécialiste de la question, mais je constate que les crispations, elles sont sur place. La tension communautaire, elle est sur place, le ressentiment est sur place. Donc c'est peut-être une proposition un peu décalée, mais en même temps, sur le fond, je pourrais, moi, intellectuellement rejoindre Macron, puisque après tout, ça reste un territoire français. Et donc, pourquoi pas donner à la souveraineté nationale tout entière le choix souverain dans cette matière. Sa proposition me paraît pas intellectuellement délirante.
Joël ?
C'est délirant. Il a rien compris au problème. Alors lui, sur une question déjà très locale, à des milliers de kilomètres, on est vraiment, je sais pas, c'est l'opposé de la Terre de l'autre côté. Il dit donc dans un conflit où les personnes, une partie des personnes sur place se sent dépossédées entre guillemets de son destin, il leur dit ah ben non, maintenant c'est toute la France entière, métropole compris, et peut-être d'autres îles qui vont décider pour vous. Alors là, ça va apaiser effectivement les tensions et ça va ressouder la communauté calédonienne à la France métropolitaine. Enfin, écoute, Jean-Loup.
Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, le fait que ce soit un référendum national sur une question dite locale ne me choque pas. Je rappelle que pour l'indépendance de l'Algérie, on n'a pas fait voter que l'Algérie. Il y a eu aussi un référendum en métropole. Et d'ailleurs, c'est pas du tout une.
Pourquoi les précédents
C'est pas une invente,
pourquoi
une invention.
Les précédents n'étaient pas nationaux. Alors
c'est pas. Ah bah les précédents. Excuse-moi, le grand référendum de 88 qui a mis fin à la période de tension, il était national.
Oui, mais le dernier.
Le dernier, il n'était pas national, mais le dernier portait sur la question de l'indépendance, en fait. Donc, le référendum de 88, qui justement a ouvert, a mis fin à la première période de tension et a ouvert le processus, il était national. Pourquoi ? Parce que les questions d'unité et d'indivisibilité de la République, d'unité du territoire national et de citoyenneté, sont des questions, en fait, nationales. Voilà. Sinon, demain, oui, tu peux faire un référendum en Corse, en Bretagne, aux Pays-Bas.
Vous croyez, Emmanuel
Macron, boîte de Pandore.
Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, il n'a pas organisé un seul référendum. Et son seul référendum de son pouvoir serait sur la Nouvelle-Calédonie. Mais vous êtes très naïf.
Les retraites, on a demandé un référendum, il a dit non. L'immigration, pas de référendum. Et tout d'un coup, ah bah là, référendum national pour un truc à des milliers de kilomètres.
Okay. Est-ce qu'on peut, vraiment comparer à l'Algérie, pardon ?
Non.
Non, allez, on enchaîne. Non, mais c'est pour te dire que il n'y a pas de difficulté à organiser sur un sujet local un vote national.
On enchaîne.
Bon, les GG, une actrice trans récompensée au Festival de Cannes, c'est une première. Elle s'appelle Carla Sofia Gascón. Elle est espagnole et elle a décroché samedi soir le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans Émilie Pérez, le film de Jacques Audiard. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Charles ?
On ne s'en fout pas.
Joël.
On ne s'en fout pas.
Jean-Loup.
On ne s'en fout pas.
Alors, Carla Sofia Gascón a 52 ans. Elle a entamé sa transition récemment, hein, finalement, à 46 ans. Ce prix est donc un signal fort pour toute la communauté transgenre. Écoutez-la.
Ce prix n'est pas pour moi toute seule. C'est un prix qui va à un grand nombre de personnes. Ça va de pair avec tout ce qu'il faut faire. En termes de visibilité, qu'on soit pris au sérieux, des gens comme tout le monde, qu'on travaille du meilleur qu'on peut, on n'a pas à se cacher.
Bon, pourquoi on s'en fout pas, Charles ?
Non, bah parce que on finit quand même par se demander alors je suis sûr que elle est très talentueuse et qu'elle mérite ce prix d'interprétation. J'aime bien Jacques Audiard, le réalisateur. Je suis sûr que le film est intéressant. Bon, mais comme par hasard, si vous voulez, c'est l'actrice trans qui reçoit. Alors, elle l'a reçu à égalité avec les autres actrices du film. Elles sont quatre à recevoir ce prix. Mais voilà. Mais donc, comme par hasard, c'est en ce moment où il y a en réalité un prosélytisme pour la transsexualité. Mondiale, une espèce d'encouragement au changement de sexe elle reçoit ce prix. Donc
c'est dans l'air du temps.
On finit par se demander
si elle est talentueuse et qu'elle la mérite.
Est-ce qu'elle le reçoit parce que elle était vraiment supérieure aux autres actrices qui concouraient pour ce prix, ou est-ce qu'elle le reçoit parce qu'elle est trans et que le cinéma, on le sait, est incroyablement perméable à l'air du temps et à l'idéologie.
Bon, je raconte une anecdote.
Ah,
eh oui, l'anecdote.
Avec plaisir.
Samedi, je suis allé au cinéma voir l'excellent film Borgo. Et j'ai vu les bandes annonces pour les films qui sortaient. Sur 7 bandes annonces, sur 7 films qu'on nous présentait, 3 mettaient en scène des transsexuels ou des travestis. 3 sur 7. Et je me suis fait cette remarque que je m'étais déjà faite il y a quelques mois, puisque déjà quelques mois plus tôt, j'avais vu 3 autres bandes annonces pour 3 autres films sur des histoires de transsexuels et de travestis lors de la même séance. Donc je crois que oui, on peut dire qu'il y a un prosélytisme dans les pays occidentaux et que ce prix s'inscrit dans cette vague de prosélytisme. Or que moi, en plus, en soi, un cas comme ça, ça ne me pose aucun problème. J'aime bien les films d'Almodovar. Je trouve ça très bien qu'il y ait des transsexuels ou des travestis qui reçoivent des prix. Mais là, tu vois bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus massif qui indique quand même une certaine forme de propagande, à mon avis, qui devient assez insupportable et qui nourrit, en plus, c'est ça qui m'inquiète, l'homophobie et la transphobie. Parce que évidemment, ça crée des crispations, ça crée des rejets. À force de mettre la focale, de mettre le projecteur là-dessus, bah, tu fais aussi monter le rejet dans certains pans de la société.
Elles vont pas se planquer non plus.
Mais on n'est pas obligé, quand on va voir cette bande annonce de film, qu'il y en ait 3 sur des transsexuels ou des travestis, et que le lendemain, on nous annonce que premier prix d'interprétation féminine, c'est un homme.
Quand on a reçu les deux autrices,
oui, Marguerite,
voilà. Marguerite Stern et Dora Mouto pour leur livre Transmania,
On est en pleine transmania.
Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu derrière comme réaction haineuse? C'est toujours, on nous a dénoncé 25 000 fois à l'ARCOM, etc. Donc on voit bien que c'est un sujet très sensible.
Je me demande, tu as vu que c'était le film de Jacques Audiard, je me demande bien ce que dirait le père de Jacques Audiard, donc Audiard le dialoguiste, s'il apprenait que c'est grâce au film de son fils que quelqu'un qui est né homme a reçu le prix d'interprétation féminine. Là, je me demande bien quelle serait la blague d'Audiard.
Joël, non mais ça c'est ce que moi j'appelle du vol, tout simplement.
Ah bon, carrément.
Et aucune femme ne devrait accepter ça. Moi je vais vous dire quelque chose. Il y a eu 4 femmes qui ont été primées, d'accord. Celle qui a la lumière, c'est la femme trans, d'accord. Aucun problème. Mais simplement, cette femme, elle a été homme pendant 46 ans. Elle a bénéficié d'un système qui est fait pour les hommes. Elle a grimpé grâce à ce système. Et tout d'un coup, elle bascule dans une catégorie en tant que femme et elle prend encore la lumière. Donc, aucune femme qui se bat pour nos droits, pour l'égalité, etc., de représentation, de financement, etc., ne devrait accepter ce genre de choses. Parce que ça, c'est la mort, en fait, tranquillement, c'est la mort de tous nos combats, de toutes les demandes d'égalité qu'on fait depuis des années. Selena Gomez, etc., tu les entends? Tu les vois? Non, pas de micro vers elle, etc. Le micro est vers cette femme. C'est très bien, elle a du talent. Moi, je dis pas ça. Je dis juste que c'est du vol. Et qu'on m'attaque sur les réseaux sociaux, qu'on me dise ce qu'on veut, c'est du vol.
C'était la conclusion signée Joël Dagosséry. Dans un instant, Emmanuel Macron propose un débat à Marine Le Pen. Alors, cette fois-ci, elle veut bien. Sauf que Marine Le Pen pose ses conditions en disant, d'accord, on débat s'il met un certain nombre de conditions politiques sur la table. Puis moi, on me siffle
sa démission.
Oui, sa démission. Et puis, un certain nombre d'engagements politiques. Donc, est-ce que il doit avoir lieu ce débat Emmanuel Macron, Marine Le Pen? Venez en parler avec nous au 32-16 avec Joël Dagosséry, avec Jean-Loup Bonamy et avec l'ami Charles Consigne.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.